Chapitre 43. Mardi 22 août 1989, 16e jour de vacances. Ciel bleu de terre vue des étoiles.
Coucou, vous êtes réveillé, mon confident? En forme? Je peux vous raconter mes rêves et mes cauchemars du matin? De très tôt le matin? Si je vous dis l'heure qu'il est, vous allez halluciner. Vous vous souvenez ma mission, mon contrat? Le bisou de Natal est sur ma joue, à condition que je parvienne à convaincre mon grand-père Cassano. Je me suis pas dégonflée, j'ai pris rendez-vous. Un rendez-vous d'affaires, ai-je dit, et papé a accepté. À Arcanou. Ça, ce n'est pas une surprise, mais à 5 heures du matin. Moi que mes parents ne voient jamais émerger avant midi. 5 heures du matin? Chiche, papé, j'y étais, sans savoir ce qui m'attendait. Il faut vous dire, mon sage et discret lecteur, que je vis des émotions extraordinaires pendant ces vacances. Comme si tout basculait chaque jour, entre le pire et ces pages grises que j'ai noircies de toiles d'araignée tissées avec le fil du mensonge des adultes, et le meilleur, comme cette nage avec les dauphins, et ce que je vis aujourd'hui, libre et légère, presque à en attraper les nuages et à tirer la queue des aigles royaux. Je vous dis tout? À 5 heures du matin, donc, bien avant le lever du soleil, papé m'attendait dans la cour d'Arcanou, au pied du chêne vert. Bâton de marche à la main, jumelle autour du cou, qu'il passa autour du mien.
Regarde.
Il m'a fait suivre la ligne de crête, vers le sud, dans la direction d'Asco, au-dessus de Notre-Dame de la Serra, plus haut encore. Une croix, ou ce qu'il en restait.
On va discuter sous la croix, Clotilde. Tu es prête?
Et il a observé avec un air amusé mon sweat, Guns N' Roses, et mes baskets. J'ai fait mine de sprinter. Je t'attends là-haut? Je me suis vite calmée. 703 mètres, et pour ainsi dire, on décollait du niveau de la mer. 4 heures d'ascension en pente douce, puis de plus en plus raide. Et pour finir, un à-pic de dingue pendant les 200 derniers mètres, à terminer à 4 pattes façon mouflon. En silence, papé n'a presque pas parlé de tout le chemin. Juste une pause casse-croûte, fromage de chèvre et copa, à mi-montée, pile au moment où le soleil s'est levé derrière le cap Corse. On aurait dit un décor de Tolkien. Un grand anneau de feu s'élevant au-dessus d'un long doigt calciné. Alors que je vous écris, je suis calmée, mon cœur reprend un souffle normal. Mes cuisses recommencent à vouloir m'obéir. Mes pieds ne tremblent plus à déraper dans des couloirs d'éboulis. Ma tête n'a plus le tournis. Je suis assise sous la croix. Papé m'a expliqué une fois arrivé qu'on l'appelle la croix aux Autrichiens. Parce que ce sont des alpinistes de Vienne qui ont ouvert la voie vers ce sommet, il y a une 50aine d'années. La croix date de 1969 et a été salement amochée depuis 20 ans. J'ai l'impression que n'importe quel coup de vent pourrait la faire s'envoler. La croix des Autrichiens. Papé, ça le fait bien rigoler. Il m'a dit que sur le Capo di Aveta, les Corses du coin n'avaient pas attendu les Viennois pour y grimper. Qu'il n'avait pas 8 ans quand il est monté pour la première fois jusqu'au sommet, avec Pancras, mon arrière-grand-père. Je comprends pourquoi. Ce n'est pas facile de vous l'expliquer par des mots, mais une fois en haut, sur ce petit dôme de pierre où nous nous tenons assis tous les deux, on a l'impression de dominer le monde. Le vent nous bourdonne dans les oreilles, invitant à tournoyer sans fin pour profiter de l'incroyable vue à 360 degrés. Comme des géants. Ou comme des enfants plutôt. Des enfants ayant construit une île en pâte à modeler. L'impression de planer. L'impression d'être seule au monde avec mon papé, qui lui n'a pas l'air essoufflé, qui m'a attendu tous les 20 mètres pendant la montée. L'impression de pouvoir tout lui dire. Maintenant, vous me connaissez, vous vous doutez que je ne me suis pas privée. Il y a un truc qui m'étonne, papé. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde a peur de toi, mais moi je te trouve gentil. Opération Beluga. Je ne devais pas oublier. Si c'est comme ça que j'espérais l'amadouer.
Méchant, gentil, ça ne veut rien dire, ma petite fille. On peut provoquer des catastrophes par gentillesse. On peut rater sa vie par gentillesse. Ou peut-être même tuer par gentillesse.
Tuer par gentillesse? Ok, papé, Je l'écris dans mon cahier. Je m'y repencherai en terminale, quand j'aurai des cours de philosophie. J'ai tourné la tête pour admirer le paysage façon géode à la Cité des sciences. La visite de l'année du lycée. Papé, jusqu'où va le terrain qui t'appartient ?
Qui nous appartient, Clotilde ? Rien n'appartient jamais à une personne seule. Qu'est-ce qu'elle en ferait ? Imagine un peu, le type le plus riche de l'histoire du monde, ce serait qui ? Celui qui aurait éliminé tous les autres. Qui vivrait seul sur la planète, avec toutes les richesses jamais produites. Il serait le plus riche homme que la Terre ait jamais porté, mais aussi le plus pauvre, puisqu'aucun être au monde ne posséderait moins que lui. Pour parler de richesse, il faut au moins être deux, comme les colons dans les westerns. Un couple qui s'installe dans le désert au milieu de rien, qui construit un abri pour y habiter, pour y faire un enfant. La richesse grandit avec une famille, d'autres enfants, des petits-enfants, pour que la terre, la maison, la mémoire puissent se transmettre. Et ainsi de suite, la richesse dans l'absolu devrait aussi appartenir à la tribu, à tous ceux qui se sont entraidés. Elle appartient à une île, à un pays, à la terre entière. Si l'humanité était capable de la même solidarité que celle qui unit un couple, une famille ou une tribu. Et là, papé me regarde droit dans les yeux. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne sera jamais le cas. Nous devons défendre ce qui nous appartient. Entre l'égoïsme de chaque individu et la folie du monde, nous sommes les gardiens de cet équilibre-là. Alors pour te répondre, ma petite fille, voici tout ce qui nous appartient. Il me montre du doigt toute la presqu'île de la Révélata, jusqu'au phare, jusqu'au camping des Euproctes, jusqu'à la plage de l'Alga. Son doigt s'arrête à l'entrée de Calvi, au nord, et au rocher de la Petracoda, au sud. Puis, il m'explique que quelques centaines de mètres carrés appartiennent au conservatoire du littoral, ou aux scientifiques du port de Starezo. Bizarrement, il ne parle ni de l'enclave de la Punta Rossa, léguée par son papa à celui de Natale, ni des hauteurs de la plage de l'Ocheluccia, sur lesquelles la Marina Rock et Marée a sauté. Ma tête de géode entame un nouveau tour. 190 degrés. Pleine vue sur la chaîne du Monte Cinto, le sommet de la Corse. 2706 mètres. Il paraît que si on ajoute les centaines de mètres de la fosse marine sous la Méditerranée, celle d'où remontent les nutriments préférés des dauphins, ça représente un dénivelé de plus de 3500 mètres, aussi haut que les sommets des Alpes. Je me retourne vers mon grand-père. Je t'aime bien, papé. Quand tu causes comme ça, on dirait que t'es sorti d'un film. Tu sais les films de parrains qui défendent le clan. Moi aussi, je t'aime bien, Clotilde. Tu feras quelque chose de ta vie, quelque chose de bien. Tu as de l'ambition, des convictions, mais...
Mais quoi ?
Mais... Tu ne vas pas te vexer. Tu ne vas pas me planter là et redescendre en courant.
Mais quoi, papé ?
Tu n'es pas corse. Pas une vraie corse, je veux dire. Ici, les femmes habillées de noir ne portent pas de tête de mort sur leur robe. Ici, les femmes sont discrètes. Les femmes se taisent. Ici, les femmes règnent sur la maison, pas sur le reste. Je sais bien que ce que je te dis va te faire bondir, ma petite insoumise. Mais que veux-tu ? Je suis habituée ainsi. Je me suis habituée à aimer les femmes ainsi. Tout ce que tu représentes me dépasse, Clotilde, même si moi aussi, je place la liberté au-dessus de tout. Si j'étais née 40 ans plus tard, peut-être aurais-je épousé une femme comme toi.
C'est ce qu'a fait papa ?
Non, ma petite fille, non. Palma n'est pas comme toi. Il marqua un long silence. Alors, allons-y, qu'as-tu à me demander ?
45 degrés, vue plongeante sur la Balagne. Le panorama sur le jardin de la Corse s'étend de Calvi à l'île Rousse. Avec un peu d'imagination, on devine même le désert des Agriates et le port de Saint-Florent au pied du Cap Corse. Je fixe la mer, comme pour prendre une inspiration avant une plongée en apnée. Et j'explique tout. Les dauphins, Orophine, Idril et leur bébé. Nathalie qui leur parle. L'Arion, un ponton pour l'amarrer. Un ponton plus grand, après, pour amarrer un bateau plus grand. Le sanctuaire au large et sur la berge, une terrasse, une buvette. Et je m'arrête là. Je ne parle pas tout de suite de la maison des dauphins. Et surtout pas de l'architecte féminin que Nathalie a contacté. Papé m'a écouté sans rien dire. 320 degrés, vue directe sur la Révélata. D'ici, la presqu'île ressemble à un crocodile endormi, je vous jure. La peau grise et verte, avec la punta di Locheluccia et la punta rossa formant ses grosses pattes et sa gueule flottant dans l'eau dessinée par le bout de la péninsule. 1000 rochers blancs alignés, comme des dents, et le phare qui lui fait comme un bouton sur le nez. Et puis enfin, mon papé parle, avec un petit sourire en coin.
Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire un dauphin ?
Je m'attendais à tout sauf à celle-là. Alors j'y reviens. Je tente de lui expliquer ce que j'ai ressenti sur l'Arion. Quand j'ai plongé, quand j'ai nagé avec les cétacés. Il doit bien la sentir, mon émotion. J'en ai encore les bras qui tremblent, les larmes qui perlent, rien que d'y penser. Alors j'en profite, puisque je suis sincère et que ça se voit. Dis oui, papé, dis oui ! Dis oui, rien que pour le bonheur de tous ces gens qui plongeront comme moi. Nathalie veut juste faire partager ce trésor. Ça y est, c'est reparti. Je n'aurais jamais dû mettre dans la même phrase les mots « partager » et « trésor ». Papé me reparle comme un vieux sage à barbe blanche, comme si mon cahier secret dans lequel je consigne ses paroles, il voulait en faire un grimoire.
Vois-tu, ma petite fille, il n'y a que trois attitudes possibles face à un trésor, depuis toujours. Que ce trésor soit une femme, un diamant, une terre, une formule magique, le convoiter, le posséder ou le protéger.
Tout comme il n'y a que trois sortes d'hommes, les jaloux, les égoïstes et les conservateurs. Personne ne partage un trésor, Clotilde. Personne.
Au début, les tirades de papé, j'aimais bien. Mais là, ça commence à me saouler. En plus, je ne voudrais pas le vexer, mais je ne vois pas vraiment la différence entre les égoïstes qui possèdent et les conservateurs qui protègent sans partager. Je me tais. J'ai une autre idée plus maligne pour le forcer à réagir. Si tu veux, papé, si tu veux. Mais je crois surtout qu'au fond, la vraie raison, c'est que comme tous les Corses, tu n'aimes pas la mer. Tu n'aimes pas les dauphins. Tu n'aimes pas la Méditerranée. Tu n'aimes pas te tourner dans ce sens-là, vers l'horizon. Si les Corses aimaient vraiment la mer, ils ne la laisseraient pas aux Italiens dans leur yacht. Il rit. Ma dernière phrase était de trop. Débile, il va se moquer de moi au lieu de se fâcher. J'aime bien ton image des Italiens, mais tu te trompes, Clotilde, sur les Corses et sur la Méditerranée. Tu sais, je n'ai pas toujours été berger. J'ai servi 5 ans dans la marine marchande. J'ai fait 3 fois le tour du monde. T'es trop forte, ma Clo, ça a marché. 250 degrés. J'ai l'impression, en suivant le littoral vers le sud, de voir jusqu'à la réserve de Scandola et Girolata. Là où les rochers deviennent rouges et où les balbuzards construisent sur les pitons de pierre de volcan des nids de fous qui ressemblent à des vigies.
Regarde, Clotilde, droit devant, vers Arcanou. Si tu continues en direction de la mer, en ligne droite, tu parviens aux falaises de la Petracoda. 30 mètres pour les plus hautes. Quand j'avais ton âge, tous les jeunes Corses, ceux qui, selon toi, ont peur de l'eau, sautaient de là. Même si je le reconnais, ton grand-père était le plus audacieux de tous. Mon record est à 24 mètres. Avec l'âge, j'ai sauté de moins en moins haut. 15 mètres, 10 mètres. Mais je continue de nager aussi souvent que je le peux. De la Petracoda jusqu'à la grotte des Vaux Marins. Parfois jusqu'à la Punta Rossa. Renoncer à la mer, c'est renoncer à sa jeunesse. Rien d'autre.
Alors dis oui, papé. Dis oui pour les dauphins. Dis oui pour ma jeunesse. Dis oui, rien que pour moi. Il sourit.
Tu ne l'as jamais, ma petite fille. Tu ferais une bonne avocate. Je vais réfléchir, je te promets. Laisse-moi seulement un peu de temps.
Il rit cette fois.
Tout va trop vite. Les femmes changent et prennent la parole.
Il rit encore.
Les dauphins changent et se mettent à parler aux pêcheurs. Je ne voudrais pas que ma Corse change aussi vite.
Alors c'est oui ?
Pas encore. Il reste une question. Une question que tu n'as pas abordée, ma chérie.
L'ombre de la croix s'étend sur nous.
Je ne sais pas si on peut faire confiance à ce Natale et Angeli. Il murmura entre ses dents. « Tu l'as eu, papé. Tu l'as eu, ta réponse. Et pas celle que tu attendais. »